Je me suis proposé, dans seulement quelques lignes, trois ou quatre lignes, vous présenter un concept qui est essentiel pour l'Église orthodoxe, qui peut constituer, si vous voulez, une preuve de la véridicité de sa foi, si on peut parler de preuve dans une Église. Je veux me référer à ce qu'on appelle la succession apostolique. Qu'est-ce que c'est la succession apostolique? La modalité par laquelle l'Église garde sa structure unique et permanente, en connexion directe et permanente et ininterrompue avec l'apostolat des 12 apôtres, dans sa continuité historique. Voilà une définition un peu longue et alambiquée. Succession apostolique. Nous réclamons que notre foi est fondée sur la foi des apôtres et que dans une lignée historique, notre foi se rapporte à la contenu de foi des apôtres. Si vous avez la curiosité d'ouvrir, par exemple, le livre l'épître d'apôtre Paul adressé aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20, vous allez voir que là-bas, l'apôtre Paul, il dit une chose très intéressante. Je vais vous lire. Vous avez intégré dans la construction, c'est-à-dire dans l'Église, qui a pour fondation la foi des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, comme Pierre, maîtresse, dit cette traduction. Dans des autres traductions, il y a des autres variantes. Donc, l'Église a comme fondement la foi et le témoignage des apôtres et des prophètes. Vous connaissez tous que le Christ, après sa résurrection, il a envoyé les apôtres, les 12 apôtres, pour prêcher l'Évangile dans tout le monde. Si vous avez aussi la curiosité d'ouvrir le livre, l'Évangile de Matthieu, dernier chapitre, chapitre 28, vous allez voir là-bas que le Christ, il dit aux apôtres, « Allez-y dans tout le monde, prêchez l'Évangile à tout le peuple, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce qu'on appelle l'apostolat. Apôtre, hein, ça vient d'un mot grec qui signifie quelqu'un qui est envoyé pour dire quelque chose, pour prêcher, si vous voulez. Je ne peux pas vous dire étymologiquement exactement. Donc, l'Église est fondée sur la base des apôtres. Vous voyez que cette Église a des prêtres, des évêques et des diacres. J'ai commencé mon homélie par vous introduire dans un terme qu'on appelle succession apostolique. Qui est le fondement de l'hiérarchie dans une Église, dans l'Église orthodoxe? Qu'est-ce que signifie cette succession apostolique? Comment est-ce que la foi des prêtres, des évêques, des diacres et surtout des fidèles repose sur cette fondement d'apôtres? Et voilà la réponse, et ici, la succession apostolique. Si vous avez eu de nouveau la curiosité de lire les épîtres de saint apôtre Paul, vous allez voir que les apôtres envoyaient des prêtres et des évêques dans les communautés qui étaient nouvellement formées. On les ordonnait, prêtres, évêques ou diacres, par l'imposition de mains. Donc les prêtres qui allaient dans les communautés nouvellement formées au temple apostolique, ils se rapportaient toujours aux apôtres. Leur foi, leur prédication était toujours liée à la foi et à la prédication et à l'évangile des apôtres, de ceux qui les ont envoyés pour prêcher l'évangile dans tout le monde, donc finalement l'évangile du Christ. L'évangile du Christ. Mais confondement, les premiers évêques, les premiers évêques et les premiers prêtres, ils avaient confondement la foi de leurs apôtres. La fête de Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ. Dans l'icône de Pentecôte, il y a deux éléments très importants. La descente du Saint-Esprit sous la forme de langue de feu, c'est le premier élément important de cette icône. Mais le deuxième élément très important de cette icône, c'est que le Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit descend sur quelqu'un. On a le collège, je prends un autre terme, le collège des 12 apôtres, sur lesquels la grâce du Saint-Esprit descend. Voilà. Au fait de Pentecôte, 50 jours après la résurrection, nous aimons à dire que c'est l'Église qui a été fondée, d'une certaine manière, par la descente du Saint-Esprit, par le fait que les apôtres ont été remplis par le Saint-Esprit, par le fait qu'ils ont été envoyés dans tout le monde pour prêcher l'Évangile, avec la force du Saint-Esprit, et en transmettant, attention, à ceux qui vont les suivre, cette grâce du Saint-Esprit, cette foi, cette prédication et cet évangile. On ne peut pas imaginer la structure de l'Église orthodoxe sans ce principe de succession apostolique. Tout d'abord, il y a un aspect strictement historique, qui monte à partir des évêques qui sont aujourd'hui sur la lignée historique qui monte jusqu'aux apôtres. Donc ça signifie que tous les évêques ont été ordonnés dans la même lignée, la lignée apostolique, à partir des 100 apôtres, Pierre, Paul, André et les autres, qui à leur tour ont ordonné des évêques et des prêtres, qui à leur tour ont ordonné et ont transmis la foi aux autres évêques et prêtres, qui à leur tour ont transmis leur foi à des autres évêques, prêtres, diacres, qui à leur tour ont transmis la foi aux autres, des autres évêques, prêtres et diacres. Et notre foi monte aux apôtres par cette succession apostolique, par cette lignée apostolique, si vous voulez. Nous confessons dans notre credo, par exemple, la foi apostolique qui monte aux 100 apôtres, qui monte au fondement des apôtres, qui monte à la base de leur témoignage et de leur kérigma, on appelle ça en grec, de leur capacité de témoigner la foi dans tout le monde. Donc, quand un évêque ou un prêtre est ordonné évêque et prêtre, il doit entrer automatiquement dans cette lignée. Personne ne peut pas commencer à prêcher l'évangile au dehors de cette fleuve, si vous voulez. Appelons-le comme ça, fleuve de foi de l'évangile et d'apostolicité, si vous voulez. Prenons par exemple l'exemple de nos frères les protestants, qui tout simplement ont cru qu'en se coupant de l'Église catholique, ils vont découvrir la vraie foi en commençant tout à partir de zéro, ou presque de zéro, en niant tout ce que l'Église catholique, par exemple, avait jusqu'au moment de la schisme avec les protestants. Schisme, c'est vraiment la rupture avec les protestants. Ils ont commencé tout au niveau zéro. Très bien, je pourrais dire. Mais voilà qu'ils ont coupé ce lien avec la succession apostolique, avec le fleuve apostolique, si vous voulez. Chaque dénomination chrétienne qui commence à partir de zéro, en ayant l'impression que voilà, nous allons découvrir la foi chrétienne, ils font dans une démarche très sincère d'ailleurs cette chose, mais ils se coupent eux-mêmes de cette fleuve, de ce fleuve, de cette rivière, si vous voulez, de l'apostolicité, de l'apostolicité. Tout simplement, en essayant de reconstruire des choses qui ont été, beaucoup, beaucoup et largement construites depuis toujours. Allons-y un peu plus, pour voir un peu plus clair les choses. Pourquoi est-ce que l'Église orthodoxe insiste sur cette lignée apostolique, sur cette succession apostolique? Parce qu'en général, nous ne prêchons pas de nous-mêmes. Un évêque ou un prêtre, il ne prêche pas de lui-même. Il prêche sur le fondement de son Église qui a comme fondement la foi des apôtres. Et tout simplement, même les apôtres, ils avaient cette conscience que ce qu'ils font, ils font toujours en connexion avec les autres apôtres. Par exemple, voilà qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Je vous ai transmis ce que j'avais reçu moi-même. Très important, cet lieu. Je vous transmets ce que j'ai reçu moi-même. Donc l'apôtre Paul, il est très conscient que sa prédication n'est pas une prédication singulière, indépendante, qui a comme base une effervescence personnelle, mais que sa foi est en connexion directe, dans un lien très serré avec la foi de ses collègues, des autres apôtres, Pierre, André, Matthieu, je ne me rappelle plus les noms, Philippe et les autres. L'apôtre Paul, il avait cette conscience. Et dans l'Église orthodoxe, par exemple, nous avons un principe très important qu'on appelle la synodalité de l'Église, la conciliarité de l'Église. Par exemple, un évêque seul n'a pas les moyens de se singulariser, si vous voulez, dans le corps de l'Église, de prendre des décisions, si vous voulez, toute seule, de se donner une opinion sur la foi toute seule. Il n'a pas la capacité de faire ça. C'est toujours le collège des évêques qui, ensemble, prennent des décisions dans la conscience que leur décision est encadrée dans cette succession apostolique, dans cette lignée apostolique, dans cette fleuve, dans ce fleuve, dans cette flux apostolique qui est toujours présent. Le même apôtre Paul, la même épître aux Corinthiens, chapitre 15 cette fois, dit aussi une chose pareille. 11. Bref, dit l'apôtre Paul, que ce soit moi, que ce soit eux, c'est-à-dire les autres apôtres, voici ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Notre proclamation est pareille. Ma proclamation de la foi et la proclamation des autres. Ma proclamation de foi est fondée sur l'accord, si vous voulez, des autres. L'accord des autres qui est très important. Donc, nous revendiquons, si vous voulez, nous réclamons, si vous voulez, cette continuité avec le collège des apôtres. Dans son intégrité, attention, pas avec des apôtres prises au singulier. Nous ne réclamons pas notre foi en se rapportant à l'apôtre Pierre, par exemple, ou à l'apôtre Paul. Nous réclamons notre foi dans la continuité avec tous les apôtres. Il n'y a pas parmi les apôtres un seul apôtre qui soit la référence. Et ici, c'est ça qu'on reproche à nos frères catholiques. Nous nous rapportons à tous les apôtres, au collège des apôtres, à la plénitude de collège apostolique, qu'on était tous envoyés prêcher l'Évangile, tous, sans exception, même s'il y a, comment dire, un primat d'autorité et de comment dire de place, si vous voulez, les autres apôtres sont des égaux. Et notre foi est fondée sur leur foi et leur prédication qui est unie, qui est transmise par leur assemblée. Par leur assemblée. Des témoignages anciens, qui sont très intéressants. J'ai trouvé un ancien écrivain chrétien, Tertullien, c'est son nom, qui réclame dans certains choses qu'il a écrites, l'apostolicité de certaines églises. Il les demande, quel est votre lien avec le collège apostolique? Si vous avez un lien clair avec le collège apostolique, cette église est une vraie église. Si vous ne pouvez pas prouver votre apostolicité, vous n'êtes pas une vraie église. C'est un mensonge, dit Tertullien. Prouvez-nous votre apostolicité. Prouvez-nous que vous êtes en contact direct avec la prédication apostolique. Et il était très incisif, Tertullien, avec ces églises nouvellement formées. Tertullien, c'est le 3e siècle, si je ne me trompe pas. En demandant aux églises nouvellement créées, formées, la liste des évêques pour prouver que cette liste monte jusqu'aux apôtres. La liste. C'est un peu simpliste, qu'est-ce que je dis maintenant, mais c'est une forme qu'il demandait pour prouver l'apostolicité d'une certaine, d'une telle ou telle église. Très intéressante cette... parce que, pourquoi l'évêque est la structure de base dans une église locale? Prenons notre cas ici en diaspora. Qui est le garant de notre foi? C'est Monseigneur Joseph et Monseigneur Marc. Ils sont dans cette lignée apostolique. Ils sont encadrés dans cette lignée apostolique, dans cette succession apostolique. Pour ça, nous faisons toujours la mémoire de Monseigneur Joseph, Monseigneur Marc, Monseigneur Joseph, Monseigneur Marc, Monseigneur Joseph, Monseigneur Marc. Parfois, chaque office, on fait mémoire. Parce que c'est lui, c'est l'évêque qui est, comment dire, la structure de base de l'apostolicité d'une église locale. Qui est la garantie de la foi orthodoxe dans un patriarcat, par exemple? C'est le patriarche. Dans notre cas, dans l'église roumaine, c'est le patriarche qui maintenant, c'est le patriarche Daniel, à Bucarest. C'est lui qui témoigne de son apostolicité. C'est lui qui entre dans cette lignée apostolique qui monte jusqu'aux apôtres. Et c'est lui qui envoie les autres métropolites, dans notre cas aussi, Monseigneur Joseph. Monseigneur Joseph, il est envoyé par le collège des apôtres, des évêques de Bucarest. Il est envoyé, il n'est pas venu tout seul en France pour commencer, pour fonder une église, pour envoyer des prêtres dans des paroisses, pour, etc., etc. Tout se fait avec cette collégialité épiscopale, si on dit comme ça en français, avec l'accord, si vous voulez, avec la synodalité de tous les autres évêques qui ont décidé, voilà, que pour l'Europe occidentale, les fidèles d'ici ont besoin d'une métropole, des paroisses, des prêtres, des diacres, des évêques, et voilà que les choses se sont développées, mais dans cette succession apostolique. Monseigneur Joseph, il est dans l'obéissance envers le Saint-Synode du Patriarcat de Roumanie, toujours. Monseigneur Marc, il est toujours en obéissance envers le Saint-Synode du Patriarcat de Roumanie, de Bucarest. Tous les autres évêques, Monseigneur Théophane à Iași, Monseigneur André à Cluj, Monseigneur Nicolae à Timișoara, tous ont toujours le rapport avec les autres collègues, avec les autres métropolites, avec les autres évêques. Toujours, ils forment un collège. qui ensemble prennent des décisions, et s'il s'agit des questions de foi, c'est aussi le collège des évêques qui donne la bonne direction, qui essaye de donner la bonne direction. Voilà un peu comment cette structure fonctionne. Mais pour pas vous donner l'impression de cléricaliser, de trop cléricaliser cette structure apostolique, il faut que je finisse avec un élément très important, peut-être le plus important. L'apostolicité d'une église ne regarde pas seulement l'évêque, les prêtres et les diacres. Les fidèles même doivent s'intégrer dans cette lignée apostolique, dans cette succession apostolique. Leur foi doit être la foi d'une église apostolique. Pour ça, nous ne pouvons pas recevoir à la communion quelqu'un qui ne confesse pas la foi orthodoxe. Pas parce qu'on ne s'entend pas, parce que nous croyons qu'il est en rupture. Il est en rupture dans cette succession apostolique. Il y a un égarement de cette fleuve qui peut être démontré historiquement. Il y a une rupture. Pour ça, je ne peux pas accepter un protestant venir communion dans mon église, même si, humainement parlant, je peux être très ami avec lui, je peux le respecter. Lui-même peut avoir une vie pleine dans le Christ, une vie authentique. Une vie authentique, mais encore une vie de recherche. Une vie qui n'est pas plénière encore, même s'il peut être le meilleur du point de vue moral. Mais une vie qui est coupée encore du fleuve apostolique. Attention, la conscience de ce fleuve apostolique était très forte parmi les saints, par exemple, qui n'acceptaient pas aucune dérogation, si vous voulez, aucun mollissement, aucun écartement de ce fleuve. Qui est vraiment, c'est un fleuve salvatrice, c'est une lignée salvatrice. L'Église est fondée sur la foi des apôtres, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'apôtre Paul qui dit l'Église ne peut exister que sur le fondement des apôtres et des prophètes. Que sur le fondement des apôtres et des prophètes. Une autre foi, quelle que soit cette foi, qui n'est pas fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est une foi en recherche. C'est une foi qui n'a pas découvert encore la plénitude des choses. C'est une foi qui n'entre pas encore dans cette courant d'air, si vous voulez, rafraîchissant, qui monte jusqu'au collège des apôtres. Donc attention, l'apostolicité d'une église vous regarde, vous, les fidèles surtout, vous entrez. Vous êtes membre d'une église qui réclame son apostolicité, qui réclame sa montée jusqu'aux 12 apôtres. S'il y a une paroisse à Toulouse, par exemple, c'est pas parce que c'est, seulement parce que nous avons besoin de nous retrouver et de prier dans une église. C'est parce que cette paroisse est inclue dans cette lignée apostolique. Parce que cette paroisse fait partie d'une structure, mais pas d'une structure administrative, mais d'une structure de grâce, si vous voulez, qui monte jusqu'aux 100 apôtres. Que le prêtre, qui soit ce prêtre, moi et autres, est obligé de garder cette lignée apostolique. Par exemple, vous savez tous que le prêtre, il est ordonné par un évêque qui, à son tour, a été ordonné canoniquement. Canoniquement, attention. Canoniquement, dans cette lignée apostolique. Le prêtre, il est l'envoyé de l'évêque. Un prêtre, par exemple, il ne peut pas ouvrir toute seule une paroisse. C'est impossible. Toute seule, sans être toujours en lien, en contact avec son évêque. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'il se coupe, même si c'est un prêtre orthodoxe, même si sa foi, c'est une foi orthodoxe, même si il ne diffère en rien avec des autres prêtres orthodoxes. Même s'il a été ordonné, par exemple, je ne sais pas où, ailleurs, en Roumanie, en Russie, en Grèce, comme prêtre orthodoxe, il ne peut pas venir sans entrer en lien avec le fleuve apostolique qui est le collège des évêques et qui les envoie en mission. Comme le Christ envoyait par exemple les apôtres, le collège des évêques envoie un prêtre dans ce cadre commun pour prêcher l'évangile, la foi et pour continuer la lignée, la succession apostolique. Et ça viendra aussi, tous les autres prêtres, tous les autres évêques, tous les autres métropolites, tous les autres patriarches qui seront ordonnés, ils seront inclus dans la même lignée apostolique. Ils seront ordonnés par des évêques canoniques, par des évêques qui sont dans cette lignée apostolique, pour continuer cette lignée, pour continuer le témoignage de la foi dans le cadre qui a été indiqué, qui a été découvert, qui a été travaillé 2000 années depuis l'envoi des apôtres à la prédication. On se demande parfois pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette lignée apostolique, de ce chemin. Parce que l'eau, quand elle est dirigée, elle arrive d'ici jusqu'à là. S'il n'est pas dirigé, elle va se répandir, elle ne va plus arriver d'ici jusqu'à là. Et le but de la succession apostolique, c'est d'arriver des apôtres jusqu'au dernier temps, jusqu'au temps du royaume de Dieu. Et pour ça, nous avons besoin des chemins clairs, parce que sinon on va partir dans toutes les directions, on n'a pas la capacité de nous tenir, de tenir notre chemin tout droit. Et le rôle, par exemple, du clergé, c'est d'être le serviteur pour les fidèles, pour les engager sur ce chemin. C'est ça le rôle du prêtre. Quand on dit de pasteur, on ne dit pas de pasteur comme ça, mais on dit de dirigeant, si vous voulez, de ceux qui donnent les jalons pour que les fidèles puissent marcher en toute sûreté sur un chemin qui a été beaucoup, 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 beaucoup prouvé par les générations antérieures et qui ont prouvé que vraiment ce chemin va vers la sainteté, va vers le goût du royaume, va vers des choses qui sont vraies, qui sont vraies. Voilà. Je m'arrête ici avec ces précisions que j'ai senti besoin de vous les faire. En fait, mon homélie est partie aujourd'hui après une discussion avec mes étudiants à Yach, qui sentaient aussi le besoin de discuter un peu, de préciser ces choses dans leur paroisse, à leur tour, parce que avec l'invasion sectaire qui existe en Roumanie maintenant, et malheureusement, les fidèles ont besoin de repères un peu plus clairs pour se rendre compte qu'est-ce qu'ils vont quitter s'ils quittent l'Église orthodoxe, qu'est-ce qu'ils vont trouver s'ils vont trouver une communauté en général néo-protestante, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans cette communauté, et pour jalonner un peu, pour donner des repères clairs, même du point de vue canonique, du droit canonique et de l'histoire de l'Église et de tout ça, pour que nous puissions savoir un peu plus pourquoi est-ce que nous nous retrouvons ici chaque dimanche et chaque liturgie. Que Dieu nous bénisse et que les saints apôtres dont on a fait mémoire aujourd'hui nous gardent et nous guident sur leur chemin pour qu'on puisse découvrir que cette succession apostolique, en fait, c'est une base pour la découverte du royaume de Dieu. Amin. Que Dieu nous bénisse. Amen.